ce qui va se passer quand Mashiach va venir. Évidemment, on pose une question. On pose une question. Le Ramban nous dit que l'intérêt du monde à venir n'est pas l'abondance matérielle qu'il y aura, mais l'intérêt du monde à venir, c'est que la parole de Dieu sera dans le monde entier. Le monde à venir se caractérisera par le fait que il y aura une abondance matérielle extraordinaire, mais l'essentiel, c'est que il y aura tous les êtres humains connaîtront Dieu et la connaissance de la vérité sera répandue partout. Alors, on pose la question. Si l'essentiel de l'avenir, du monde à venir, c'est que la connaissance de Dieu se répande partout. Qu'est-ce que, ici, la Torah a l'air de nous dire? Que quand vous faites la Torah comme il faut, ben vous savez quoi? Vous aurez des fruits, vous aurez du pain et vous aurez à manger. On aurait dû nous dire, si vous faites la Torah comme il faut, vous aurez le dévoilement de Dieu. Il n'y a pas une fois où il y a écrit « Je me dévoilerai à vous ». L'essentiel, c'est que des bénédictions sur le bétail, les fruits, l'abondance, etc., etc. Donc, c'est la question qu'on pose. On a l'air de vouloir décrire la bénédiction de Dieu comme quelque chose de matériel, comme étant le but. Alors qu'apparemment, d'après le Rambam, il vous dit bien que le monde sera envahi d'abondance matérielle. L'essentiel, c'est que les gens seront des chachamim et connaîtront Dieu. Alors pourquoi la Torah n'a pas parlé de ça? Pourquoi la Torah n'a pas donné aussi cette dimension spirituelle? Pourquoi la bracha n'est pas dans le spirituel? Pourquoi elle n'est que dans le matériel? D'accord? Bizarre. On aurait dû mettre l'accent au moins là-dessus. De nous dire que Dieu se dévoilera et que on sera tous des grands sages et des grands savants. Au lieu de ça, la Torah nous dit non. Si vous fatiguez dans la Torah, vous aurez des pluies et du shéfa, vous aurez de l'abondance matérielle. Alors, il y a des commentateurs qui disent, qui essayent de répondre en disant, étant donné que le Rambam, le même Rambam, dans les lois qui parlent de la tshuva, de retour, c'est pas comme salaire qu'il te donne ça. Pas comme salaire. Il te donne ça comme moyen de servir Dieu dans la tranquillité. Puisque tu veux servir Dieu, prier, étudier, faire les mitzvot, et que tu as un corps et tu as des besoins, alors Dieu, il te donne tout ce dont tu as besoin pour que tu puisses te consacrer la tête tranquille à ton service de Dieu. Parce que quelqu'un qui est malade, il ne peut pas étudier, il ne peut pas prier, ou quelqu'un qui n'a pas de quoi manger, il a la tête au frigidaire vide et pas à l'étude. Donc le Rambam te dit, Dieu te donne tout ce qu'il faut pour que tu puisses t'occuper de son service. Mais il ne t'enlève pas de salaire de ça. C'est pas qu'il te dit, comme les musulmans, c'est ça ton salaire. Ton sahar, c'est un Gan Eden fait de bien-être matériel. Non, il ne te dit pas du tout. C'est pas du tout ton salaire. C'est rien qu'un moyen, comme quelqu'un qui travaille, on lui donne une voiture de fonction, on lui donne un téléphone, on lui donne de l'argent de poche, parce qu'il doit... faire des contrats commerciaux avec telle et telle entreprise, donc on lui donne les moyens d'être tranquille. On lui paye l'hôtel, etc. Donc il disait la même chose. comme tu as besoin de t'occuper du service de Dieu, Dieu il te laisse la tête tranquille pour le faire. Mais ce n'est pas le salaire qu'il te donne, le salaire c'est autre chose. Alors il y a des gens, des mefarchim qui veulent dire, voilà, ce qu'on vient de te dire ici, c'est, ne t'inquiète pas, on ne parle pas du salaire mamash, le salaire mamash c'est ce qu'a dit le Rambam, c'est quelque chose de spirituel, mais que quand tu fais comme il faut la Torah, Dieu te laisse tranquille, voilà. Il te donne de la pluie en son temps, il te donne des fruits en son temps, etc. Alors là-dessus on pose une question. On dit, ce pérouche, il est très joli, mais apparemment, il ne correspond pas au, il correspond pas à la ligne de la paracha. La paracha, elle ne nous a pas donné une allusion qu'il y a quelque chose d'autre, d'essentiel. La paracha, elle a l'air de dire que c'est ça le but, c'est ça le salaire. Elle nous dit pas, en plus du salaire, vous aurez ça. Elle nous dit, c'est ça le salaire. Si vous faites la Torah en vous fatiguant, je vous donnerai les pluies en leur temps. Elle dit ça. Elle n'a pas dit, je vous donnerai de la Torah et aussi de la pluie en leur temps. Donc, ces explications-là des commentateurs, elles sont un peu tirées par les cheveux. Elles ne correspondent pas, disons, au sens simple du texte que vous lisez. Alors, d'autres mefarchim, ils sont beaucoup plus secs, ils disent la Torah parle à tout le monde. Elle ne parle pas à des gens idéalistes. Elle parle à tout le monde. Or, surtout à ce moment-là, quand Moshe donne la Torah aux Juifs, il ne peut pas leur dire la vérité. À savoir que toute la raison pour laquelle vous allez vous fatiguer à la Torah, c'est pour avoir encore de la Torah. Comme la plupart des gens, comme dit le Rambam, tout le monde n'est pas au niveau d'Abraham Avinu, donc on a besoin d'attirer les gens avec quelque chose qu'ils peuvent comprendre, qu'ils peuvent apprécier. De la même façon qu'un enfant, vous ne pouvez pas l'attirer en lui disant « Viens étudier la Torah, tu vas comprendre Dieu ». Tu dis non, viens étudier la Torah et tu auras des bambas, tu auras du chocolat, tu auras des bonbons. Vous l'attirez avec ce qui lui parle. Et quelqu'un qui est plus grand, vous l'attirez avec ce qui lui parle. Et qu'il n'y a qu'Abraham Avinu qui peut dire, moi je ne fais la Torah parce que j'aime Dieu. Le reste ne m'intéresse pas. Mais tous les êtres humains, même les plus grands, ils sont intéressés à quelque chose qui leur est proche. Donc ils veulent soit le kavod, soit l'argent, soit le pouvoir, soit la santé, des choses qui touchent les êtres humains. Et donc la Torah est obligée de dire quelque chose d'intermédiaire, parce qu'elle sait très bien que si elle vous disait la vérité, vous diriez quoi? Il faut se fatiguer pour la Torah, pourquoi faire? Eh bien, pour recevoir le dévoilement de Dieu. Mais je n'ai rien à faire, moi, le dévoilement de Dieu. Donne-moi un gâteau, donne-moi quelque chose qui me parle. Donc comme la Torah parle à la majorité des êtres humains, et que les êtres humains ne sont pas du tout intéressés à des choses spirituelles, et qui sont tachlès, qui veulent du concret, donc la Torah leur a dit une partie de la vérité. Elle leur a pas dit toute la vérité, elle leur a dit une partie. Elle leur a dit, vous savez, quand vous faites bien la Torah, vous devenez riche. Vous voyez bien d'ailleurs dans les synagogues, comme je dis toujours, dans toutes les synagogues, quand on veut faire des mitzvot aux gens dans les synagogues, on dit achetez l'ouverture du rideau, c'est une segula pour la parnassa. Achetez ça, c'est pour l'argent. C'est toujours pour la parnassa. On trouve toujours des trucs de parnassa. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les gens, ça les intéresse. Mais si vous leur dites, vous savez, si vous payez très cher cette chose-là, vous allez être un chacham. Mais ne fasse pas un chacham. Oui, donc on... Non, là pour l'instant... Non. Ouais, là il vous dit c'est parce que les autres Mefarshim vous disent parce que l'homme ne peut pas apprécier une récompense qui n'est pas autre que celle qui vit. De la même, et comme tous les gens sont des enfants dans le service de Dieu, de la même façon qu'un gosse ne peut pas comprendre qu'on lui promette quelque chose qui ne le touche pas, et vous êtes obligé de le toucher avec ce qui lui parle quand il est tout petit, donc la majorité des êtres humains n'auraient pas compris si on leur avait répondu le secret du Rambam, que quand Hachira va venir, ce sera le dévoilement de Dieu qui sera là et le reste sera secondaire. Ils n'auraient pas compris, ils auraient dit non. Qu'il y ait du dévoilement de Dieu, ça ne me dérange pas, mais si tu me garantis qu'il y aura de l'abondance, ah là, j'attends ma chère, ça c'est sûr, j'attends ma chère. Donc il y a des gens, donc des Mefarshim qui disent, c'est pas que la Torah a menti, elle a voulu simplement, elle a dévoilé qu'une partie de la vérité, celle qui intéresse les gens. Et ça ne veut pas dire que ça n'est pas vrai. Mais c'est une chose, il fallait parler le langage que les gens veulent entendre. Maintenant, troisième option. Le rabbi, il dit, il faut une troisième option. C'est que la Torah doit parler pour tout le monde. Pas seulement pour les gens qui ne sont pas idéalistes, mais elle doit parler même pour les idéalistes. Elle doit parler même pour les gens qui savent que ce monde-là, ce n'est pas l'essentiel. La Torah doit absolument s'adresser à tout le monde. C'est une paracha. Il n'y a pas écrit qu'elle s'adresse aux Kohanim ou aux Lévim ou aux Français ou aux Israéliens. Elle s'adresse à tout le monde et pour tous les temps. Donc, elles doivent donner une réponse qui soit valable pour tout le monde. Et pas une demi-réponse ou alors un camouflage de réponse. Il faut trouver une réponse qui marche. Alors, elle lui répond tout simplement que le titre de la paracha, c'est Im Bechukotai. Chukotai. Le mot chuka. Le mot chuka, ça veut dire un décret. Et la chassidoute explique que chukotai, ça vient du mot lachkok, qui veut dire gravé. Chakouk. Chakouk, ça veut dire une gravure. Comme les tables de la loi qui étaient gravées dans la pierre. Et donc la chassidoute, tout le monde connaît ça, fait la différence entre quelque chose qui est écrit sur un parchemin et quelque chose qui est gravé dans une pierre. Quelque chose qui est écrit dans un parchemin, vous avez l'encre et le parchemin. Et donc il suffit de l'eau ou d'un produit et que l'encre s'en aille. Et donc l'encre et le parchemin font deux choses. De choses qui sont séparables. Alors que la gravure, elle est indissociable de ce qu'on écrit. Ça veut dire que si vous voulez enlever l'écriture, vous êtes obligé de casser l'écriture, vous êtes obligé de casser de la pierre. La chose écrite et le support ne font qu'une chose. Et donc c'est un remez, c'est une allusion à ce que l'on doit être par rapport à la Torah. C'est que la Torah ne peut pas être pour vous quelque chose comme de l'encre sur un parchemin. C'est-à-dire, vous avez votre personnalité, vous êtes comme vous êtes, et dessus, on met de la Torah. On colle dessus des lois de la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tout va bien, la Torah, vous l'accomplissez. Et si un jour, il y a un déluge qui passe sur vous, l'eau va enlever l'écriture. Ça veut dire que vous n'êtes pas engagé dans les mitzvot de la Torah et parce que c'est vous, mais vous êtes engagé parce qu'il y a quelque chose qui s'est rajouté dessus. Et dès que un événement très fort vient bousculer votre vie, comme l'encre s'en va du parchemin, la Torah s'en va de vous. Comme on le voit, des fois je suis sidéré, et vous sûrement aussi. Vous voyez des gens qui sortent des yeshivotes, ou des filles qui sortent des séminaires, ou des gens qui ont vécu toute leur vie dans un truc, et puis d'une seconde à l'autre, ils arrêtent tout. Alors vous dites, attends, je ne comprends pas, tous les cours qu'ils ont pris, et toutes les fêtes qu'ils ont fêtées, toutes les mitzvot qu'ils ont accomplies, et tous les gens qu'ils ont fréquentés n'ont jamais œuvré sur eux. Ben oui, c'était comme, même pas comme de l'encre, c'était comme de la poudre sur du papier. Donc, tant que vous voyez la poudre sur le papier, vous dites, ben voilà, c'est écrit sur le papier, ça ne bouge pas. Vous soufflez, la poudre s'en va. Et vous voyez, il y a des gens comme ça. Il y a une histoire extraordinaire, enfin, qui est dramatique. Il y avait un monsieur qui étudie dans une yeshiva pendant des années, pendant 20 ou 30 ans. Un jour, il a été voir un des Gdolé Israël, je ne sais pas qui c'était, et il lui a dit, on a vérifié qu'en vérité, votre mère n'a pas été, même pas convertie. Elle n'est pas juive, elle n'est même pas convertie. Alors, il a dit, alors ? Il a dit, alors, sans problème, parce que vous n'êtes pas juif. Parce qu'il y avait eu une histoire de vérification dans les papiers, en fait. Sa mère n'était même pas juive. Il dit, ah, je ne suis pas juif. Mais non. Alors le rabbi a dit, voilà, il faudrait, comme vous êtes depuis tellement longtemps, etc., c'est rien qu'une formalité pour vous. Il suffit de... On va régulariser ça. C'est-à-dire, donc les gens se sont dit quoi, 30 ans de Yeshivot et de Gemara et de Mitzvot, dès qu'il a appris qu'il n'était pas juif, ça l'a donc libéré son poids qu'il avait sur lui. Oups, shalom. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toute la Torah qui est passée sur lui, elle était comme, même pas comme une encre sur un parchemin. Et ça, bon, on raconte ça comme un événement exceptionnel. Mais j'en vois tous les jours des gens comme ça. Des gens tous les jours, des gens comme ça, vous voyez des gens, vous dites, quand je comprends pas, il est né là-dedans, il a fréquenté ça toute sa vie, pas toute sa vie, jusqu'à maintenant, à 25 ans, paf, il lui prend un jour.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intériorité n'a pas du tout été touchée. Non, traverser la Torah, ça ne me dérange pas, ok. Il a fait fausse route, il a été pris par un... Les gens ont l'impression que force à force, ça les a changés. Ah, vous parlez de celui-là. Bon, maintenant c'est un cas exceptionnel. Je vous parle de gens qui ont vu. Une seconde à l'autre, il a su. Il a su, je crois que les gens sont forts. Il y a plein de choses qu'ils n'arrivent pas à faire, mais bon, ils essaient au moins de garder un peu de cachot, un peu de shabbat, un peu de tout. Rien, il va tout. Et lui, quand même, c'est pas. Son père, avec son père, il n'a rien à faire.
C'est les épreuves de la vie qui vont vérifier ça. Hein? Si le moindre problème financier ou de santé ou de choc émotionnel vous fait tout lâcher du judaïsme, c'est donc vous aurez eu la preuve qu'il n'y avait aucune gravure en vous. C'était stable. C'était deux choses, vous et la Torah. Comme un mauvais acteur, hein, je dis un mauvais acteur, parce qu'un bon acteur, ça ne fait pas comme ça, un mauvais acteur, qui dès qu'il a fini son rôle, il n'a plus rien à voir avec le rôle. Et il fait le méchant dans le rôle, et puis après, ça y revient normalement. Alors qu'un bon acteur, il est tellement un bon acteur que même quand il n'est pas sur la scène, il continue à faire le rôle. Un bon acteur, c'est quelqu'un qui est complètement là-dedans, il s'est investi là-dedans, il devient son rôle. Donc, ou vous êtes un bon acteur, ou vous n'êtes même pas un acteur, vous êtes la chose elle-même, c'est fini. Vous n'êtes pas un acteur, vous êtes la chose elle-même, vous êtes la Torah. Et si on vous dit, il faut arrêter, vous dites non, c'est ou la mort, ou rien, je vis comme ça. Donc, ça c'est le test. In Bechukotai, il faut arriver à Bechukotai, à être gravé, que la Torah soit gravée en vous. Et donc chaque jour, vous la gravez davantage. Jusqu'à ce qu'elle soit dans votre inconscient. C'est dans l'inconscient qu'on voit où on en est. C'est, dans le conscient, vous pouvez faire du cinéma devant tout le monde, mais entre vous et vous-même, vous savez que vous n'êtes pas, vous n'y croyez pas. C'est dans l'inconscient, c'est-à-dire dans, le, dans les lapsus que vous allez sortir, dans les mots que vous allez sortir de, par hasard, ou les réactions que vous allez avoir, c'est là que vous allez savoir si vous ou non, vous êtes, c'est gravé en vous. Comme la fameuse histoire du Rav Guggenheim à Paris. Le père du Rav Guggenheim d'aujourd'hui, du Beit Din de Paris, son père il s'appelait Ernest Guggenheim. Quelqu'un, à l'époque, il y avait beaucoup de conversions en France. Il y avait une dame qui s'était convertie au judaïsme, bon. Et quand elle est arrivée dans au Mikvé, donc il y avait les rabbins qui étaient dehors, et puis il y avait les dames qui étaient avec elle. Et quand elle est rentrée, elle a mis le pied dans l'eau. Elle fait, oh, Jésus-Marie-Joseph! C'était plus fort qu'elle. Jésus-Marie-Joseph. Donc, ça veut dire, si vraiment elle n'avait rien à voir avec ça, par contre, comme moi je connais des convertis qui étaient des gens, des chrétiens, qui étaient mamans chrétiens, mais ils se moquent de ça, oui. Enfin, ou ils vous en parlent, ils peuvent vous faire des conférences, etc. Mais ça ne les touche pas. Donc ça veut dire que la hakika, la preuve que vous êtes gravé avec ça, c'est que dans votre inconscient, vous continuez à le faire. Comme là, votre histoire que vous avez racontée. Hein. Une semaine avant Pessah, elle lui dit qu'ils ont le droit d'être chrétiens. Voilà, l'histoire qu'elle a racontée autrefois. Les gens qui ont fait semblant de se convertir au christianisme parce qu'ils devaient avoir un très beau salaire, puis après le boss, il leur a dit, écoutez, bon, je vois que vous n'arrivez pas à tenir, allez, vous pouvez redevenir juif. Alors, plus d'années passent et le mari rentre à la maison et dit, voilà chérie, je t'annonce une très bonne nouvelle, le boss il a dit, on peut redevenir juif. Il n'y a plus besoin d'être chrétien, il nous laisse le même salaire, on peut rester juif. Et là, la femme, elle fait la tête, elle lui dit, alors, il dit, pourquoi tu fais la tête? Une semaine avant Pessah, tu me dis ça? C'est-à-dire que bien qu'elle ait fait semblant d'être chrétienne pendant des années, elle n'a pas... Pessah, c'était toujours Pessah. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à ce degré de hakika, que ce soit gravé. Comme c'est gravé en nous, quand c'est gravé en nous, que quand vous avez soif, même en pensant à autre chose, vous soulevez le verre, vous savez le mettre dans la bouche. Les réflexes que l'on a, ce sont des réflexes. Même quand vous dormez, s'il y a quelque chose qui vous gratte, vous grattez. Et le matin, si je vous dis, mais vous êtes gratté, vous allez me dire, mais pas du tout. Je dormais. Justement, ça vous a tellement gratté que votre main a retrouvé l'endroit où ça gratte. Et vous avez fait ça. Donc ça veut dire que c'est chakouk, c'est gravé en vous, cette l'emplacement de ce qui vous gratte et à quel doigt il faut le faire pour le gratter. Donc il y a des choses qui sont des choses gravées. Il n'y a pas écrit dans le Shulchan Aruch, quand vous n'avez pas d'air, respirez. C'est pas shoot. Quand vous n'avez pas d'air, vous allez respirer. D'accord? Ou quand vous voulez marcher, avancez le pied. Tout le monde sait parce que c'est gravé en vous. Donc la Torah doit devenir comme ça. Et donc, le rabbi dit, voilà la réponse. Et c'est là la clé. C'est là la clé de notre histoire. C'est que si la Torah est vraie, si la Torah est vraie, dans votre quotidien, si elle a été gravée comme il faut, c'est pour ça que Rashi a dit, vous vous fatiguerez dans la Torah, Amélie, vous allez vous fatiguer dans la Torah, donc c'est gravé chez vous. Comme c'est gravé chez vous, la Torah ne va pas rester simplement au niveau intellectuel, elle va descendre au niveau matériel chez vous. C'est-à-dire, vous allez la ressentir comme quelque chose de matériel chez vous. Ça va pas simplement être un effort intellectuel sans toucher à votre corps, mais ça va toucher même votre corps. Pardon? À la hakika. Comme ça vous touche, ça agit dans votre corps. C'est-à-dire, de la même façon qu'une joie, par exemple. Vous entendez une bonne nouvelle. Si c'est une bonne nouvelle relative, vous allez sourire. Si c'est une bonne nouvelle qui vous touche tellement profondément, vous allez sauter de joie. Donc vos pieds vont faire ça. Et l'inverse dans la douleur, par exemple. Si c'est une mauvaise nouvelle, vous prenez une mauvaise nouvelle de quelqu'un qui est étranger, bon, ça vous touche un peu, etc. Vous allez... Que Dieu préserve, si c'est une mauvaise nouvelle qui vous touche à vous, quelqu'un est déchiré de ça. Ça peut même lui apporter une maladie de cardiaque, etc. Donc, de la même façon qu'une joie ou une peine, ça reste pas simplement intellectuel. Si c'est intellectuel, ok, ça ne sera pas vérifié dans vos réactions charnelles. Si ça vous touche tellement, vous allez avoir le cœur qui bat ou les pieds qui bougent. Donc, de la même façon, la Torah. Si la Torah vous touche, si c'est simplement intellectuel, prendre. Si c'était simplement intellectuel, vous avez entendu un magnifique Dvar Torah, vous dites, Toda Rabba, merci beaucoup, mais nous allons maintenant passer au repas, au deuxième plat. Ça vous a touché tellement que vous n'avez pas oublié qu'il y a encore un plat après. Merci beaucoup, on remercie le Bar Mitzvah pour son discours. Mais si ça vous a tellement touché, vous allez avoir des larmes, vous allez avoir... Oh, c'est extraordinaire. Ça a changé votre vie, quoi. Rome. Et des fois, c'est tellement profond que ça change votre vie sans que ça se voit. Sans que ça se voit. C'est-à-dire, vous écoutez comme ça, froidement, mais en réalité, vous êtes profondément touché et des grandes décisions sortent de ça. Voilà. La chakika, c'est que vous prenez la Torah tellement au sérieux que c'est chakouk en vous. Je vous ai raconté l'histoire. Je vais la raconter un milliard de fois parce que c'est un truc extraordinaire. Je vous la raconterai encore une fois pour vous montrer. Ce que c'est que la chakika. J'avais un monsieur qui organisait des séminaires en Israël pour les touristes. Et il m'a dit, viens, je t'en prie, il faut parler à ces gens-là, ta 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 ta. D'accord. Gratuit, bien évidemment. Même le taxi était à mes frais. L'eau m'échanait, on a l'habitude. J'arrive dans un grand hôtel, je vois des gens en maillot, des femmes en maillot, des hommes en maillot, des bouées, des trucs. Il me dit, voilà, il faut leur faire un Dvar Torah. Ils sont vraiment très réceptifs. Là. Le coca, les gâteaux, un bruit infernal. Il s'est moqué de moi, le gars, complètement, vraiment nul. Quoi. Je me dis, je reste ou je m'en vais? Et tout le monde, je vous dis, en maillot de bain, dans le lobby, comme ça. Alors, il fait silence, silence, silence. Alors il m'a dit, voilà, faites un Dvar Torah, après il va y avoir le Ravel Bas qui va venir, ta, 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 ta. Je voyais que tout le monde s'en fichait royalement. Je lui ai dit, qu'est-ce que je vais leur raconter? Que Dieu existe, hein? Je leur ai dit, bon, je me suis dit, pas me casser la tête, je vais leur faire le Rambam du jour. L'étude du Rambam journalière. Et d'Afka, ce jour-là, le truc du Rambam, c'était des histoires de pureté, d'impureté, de serpents, de machin, complètement anachronique avec eux. Alors, il y avait le micro, j'étais seul devant un micro avec une table, tous les gens qui n'écoutaient rien du tout, et moi je dis, voilà, première halakha, si quelqu'un rentre dans une tente et qu'il y a un serpent qui le suit, ta, 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 il est impur, il faut qu'il aille, nanana. Et j'ai vu qu'au bout de 3 minutes, de toute façon, personne ne s'intéressait, personne n'entendait même, c'est même pas qu'ils n'écoutaient pas, ils n'entendaient même pas, tellement il y a du bruit. Et voilà, donc, et c'est pourquoi il faut qu'il aille au mikvé, aussi à la vache rousse, il faut qu'il attende d'être aspergé par la vache rousse. Alors, je ferme le livre, je dis Toda Rabba, là là, je me dis Toda Rabba, merci beaucoup. Et les gens, ils n'ont même pas entendu que j'avais fini ou même commencé, d'accord. Et il me dit, ah merci, c'est gentil d'être venu, vraiment, c'est gentil d'être venu. Je lui dis, la prochaine fois, tu me diras qu'il faut venir en maillot de bain, comme ça on pourra parler le même langage. Ouais. Je rentre chez moi, il fait semblant de me poursuivre dans l'escalier pour me donner un... Ah, oh, j'ai pas d'argent, il faut que je monte dans la chambre. Shalom, Koltouf. Désolé de s'être rencontré. Bon, d'ailleurs, depuis, il m'a vu plus. Au mois d'août, il me laisse tranquille. Mais Kitsour, je rentre chez moi, ma femme me dit, si vite, si tôt, je dis, ouais, même un coca, j'ai pas eu, quoi. Calme chez elle, j'ai pas eu le coca en plus. Bon, c'était naze, comme on dit. C'était un coup pour rien. On a l'habitude. Bon, le temps, les années passent. Un jour, j'arrive à Paris. Et puis, j'arrive dans une synagogue à Paris. Et puis, un monsieur, il me dit bonjour. Alors, je le vois avec un chapeau, une barbe et tout. Alors, il me dit je vous connais. Alors, il me dit moi, je ne vois pas qui vous êtes. Alors, il me dit moi, je vous connais. J'ai fait de choua parce que je vous ai écouté parler. Ah bon? Ah, j'ai dit ah oui, quand ça? Il dit, vous ne vous rappelez pas, vous avez été à l'hôtel, ta 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 ta. Je dis, oui, je me rappelle, mais d'après, j'étais assis au bout, en maillot de bain, dans le fauteuil, et je lui dis, ce mec-là quand même, il vient, il raconte un truc, personne ne comprend, personne n'écoute, c'est que la Torah, ça doit être vrai. Et quand vous êtes parti, je me dis, bon, dès que je rentre en France, je vais commencer à m'intéresser à la Torah. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, j'ai cru que je n'ai rien fait. Ça, c'est une autre question. Mais ce qui s'est passé avec lui, c'est pas Rakouk, ça c'est du Rakouk à fond. Le gars, il regarde, en maillot en plus, et qu'il a rien compris du tout de quoi ça parlait, mais il s'est dit quand même, sûrement, la Torah, ça doit être vrai, parce qu'un mec, à 40 dehors, il vient raconter une truc du serpent, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de vrai derrière. Donc ça veut dire que quand on vous dit que c'est gravé en vous, c'est pas forcément avec des drogues, les réactions des gens. Parce qu'il y a des gens qui se sont dit, ah, c'est beau, oh là là, j'ai entendu, c'est magnifique ce qu'il a dit. Mais au niveau concret, ça n'a rien changé de leur vie. Donc c'est pas parce que vous êtes expressive que vous êtes, que c'est gravé en vous. Ça peut être gravé en vous sans que vous ayez l'expression. La transparence. D'accord? Il y avait un monsieur comme ça à Paris. Quand il faisait un chiot, quand il écoutait un chiot, il dérangeait tout le monde dans le chiot. Parce que pendant tout le chiot, il disait, c'est ça, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Oh, c'est ça, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Oh, c'est ça. Vous avez envie de dire, mais il va se taire. Oui. Mais en vérité, rien ne joue de transpercer. Rien. Mais il vous donnait le sentiment qu'il était ébloui par le discours. Oui, c'est ça. Oh, c'est vrai. Oh, oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Alors, tous les gens. Voilà. C'est de la sensibilité momentanée, mais après, ça s'évapore. Donc, là, on dit de la vraie hakika, c'est-à-dire que ça vous a gravé, ça vous a touché. Ça y est, ça bouge plus. Et d'ailleurs, les événements vont le prouver. Hein? S'il y a des bourrasques, des tempêtes de Parnassa ou des épreuves ou des choses qui sont dérangeantes, si ça vous bouge pas, les gens diront, ben, donc c'était donc gravé chez vous. C'est ça et pas autrement, ça veut dire. Alors que le rabbi, il dit, c'est là la clé. Quand, si on arrive à ce travail-là de Hakouk, donc la Torah n'est pas restée simplement au niveau de l'intellect, de ce qui est votre tête, mais c'est arrivé à vous toucher dans les pieds, dans les pores de votre corps. Alors, donc, vous allez vérifier la vérité de la Torah, parce que la Torah va vous donner un feedback matériel. Elle ne va pas simplement vous donner des brachot et des réponses spirituelles et intellectuelles, elle va vous donner des réponses dans votre portefeuille, dans votre frigidaire. Ça veut dire que la vérité de la Torah doit se démontrer jusque dans la matérialité du monde. Donc quand Dieu dit, si vous faites de la Torah, Be'ofen shel chukot, dans quelque chose qui est comme quelque chose de gravé en vous, et Rashi nous dit, quand vous fatiguez à ça, pas au club méditerranéen, mamash vous fatiguez à ça, alors je vous promets, t'es plus en leur temps, etc. Ça veut dire que comme c'est descendu chez vous, dans les niveaux les plus bas de votre être, donc ça doit aussi descendre dans les niveaux les plus bas du monde. C'est-à-dire la matière. La matière. Comme je l'ai expliqué 3 milliards de fois, et je le répéterai encore une fois, la question du Rav de Brisk. Le Brisker Rouve, il pose une magnifique question, il dit, comment se fait-il que de tous les patriarches, quand vous lisez l'histoire des patriarches, jamais il y a écrit Avraham Avinu, c'était un grand, il a étudié le chasse, il a étudié le Chumash, jamais il y a écrit ça, ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov, ni Yosef. Il a écrit toujours Yitzhak, il était riche, il avait des milliers de moutons, il avait des milliers de servantes, il avait le Brisker Rouve, il dit, qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Au lieu de dire qu'ils ont écrit des livres, qu'ils ont parlé à Dieu, qu'ils ont eu des dévoilements spirituels, la seule chose qu'on dit sur eux, Tu sais qui c'était Yitzhak Avinu ? Il avait 3 millions de moutons. Et 4 000 esclaves. Et 500 000 kilos d'or. Et sa Torah, et sa Tfila, allez. Une fois, il y a un remez qu'il a été prié dans le champ, quand Rivka arrive. Mais toute l'histoire de Yitzhak Avinu, qu'est-ce qu'il fait ? Il creuse des puits, il ramasse de l'argent, il tond les moutons. Abraham, pareil, Jacob, pareil. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là ? Et nous, on nous dit à nous, comment on va savoir si tu es un tzaddik ? Comment tu pries ? Comment tu étudies ? Si tu ne fais pas de la shonara, ta. Et eux, on ne parle que de leur compte en banque. Alors le Miskerou, il dit, c'est ça la force. C'est que leur Torah, elle était tellement vraie qu'elle s'est matérialisée au niveau des moutons et de l'or dans le coffre. C'était pas une vérité qui tenait pas la route. C'est une vérité qui était tellement forte chez eux qu'elle est descendue et qu'elle a une influence sur le monde matériel. Et c'est là la preuve. C'est ça qu'il vous dit. C'est ça ce que vous dit la paracha. La preuve que ta Torah, elle est vraie, c'est quand elle descend jusque dans le monde matériel. Si ton frigidaire est vide, c'est que ta Torah n'est pas vraie. Elle est vraie, mais elle s'est arrêtée à un moment intellectuel. Elle n'est pas descendue, elle n'est pas gravée en toi. Comme elle n'est pas gravée en toi, alors elle reste au niveau des bénédictions spirituelles. Tu es un être spirituel, mais tu as des brachot spirituels. Si ça descend en toi au plus bas, alors ça va descendre aussi dans ce monde-là, dans le niveau le plus bas. Et donc, c'est là qu'on comprend pourquoi la Torah a besoin de nous raconter qu'il y aura des chalotes douces sur les arbres, etc., quand Mashiach va venir. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle sera tellement ancrée dans ce monde-là que tous les obstacles pour la faire descendre auront disparu. Et donc, ce sera la preuve. C'est pas que ça nous intéressera d'avoir des chalotes. Ça ne nous intéressera pas, puisqu'on sera détaché de l'intérieur matériel. On aura tout ce qu'il faut, donc ça ne nous intéressera même pas. Mais ça sera la preuve que nous avons été parfaits dans notre accomplissement de la Torah et les mitzvot. C'est pour ça qu'il dit ça. Si vous vous fatiguez dans la Torah, je vous donnerai des pluies et des fruits. Ça veut dire que ce sera la preuve. Si tu n'as pas de fruits et de pluies, c'est que tu es un étudiant de la Torah au niveau intellectuel. Quand tu as fini le cours, tu fermes ton livre, tu rentres chez toi, mais en fait, toi, tu n'as pas changé encore. Ou tu as un peu changé. Mais ça ne t'empêche pas de dormir la nuit. Il faut en arriver à ce que tu ne vives que de ça, quoi. Ah, tu ne vis que ça. C'est ça qui t'intéresse. Non, le midrash que j'ai cité, c'était sur la Géoula. Mais la Torah elle-même, la paracha elle-même, elle parle de maintenant déjà. Il ne recouta et les rouges, vous donnerez le plus. C'est deux situations analogues. Donc au niveau de l'individu, ça doit se traduire par ça. Imberukotai, si vous marchez dans mes décrets, je remplis votre frigidaire. Donc tu dois te poser des questions, pourquoi mon frigidaire n'est pas plein? C'est qu'en réalité, je ne suis pas Amel Batora, je ne me fatigue pas comme il le faudrait dans la Torah. Une épreuve de quoi? Non, parce qu'on a dit le premier stade, c'est déjà que le bon Dieu te laisse tranquille. Déjà, si tu es comme il faut, on l'a vu dans le Rambam, si déjà tu es comme il faut, tu as vraiment une envie de servir Dieu, Dieu va te laisser tranquille déjà. Il va te donner la santé, tout ce qu'il faut pour que tu puisses le servir. Il va te donner des moyens de travail. Maintenant, plus fort que ça, plus que les moyens de travail, c'est ce degré-là, c'est que c'est une vérification de ton état spirituel. Vous voyez, il y a des grands admourim, qui sont immensément riches. D'où ça vient qu'ils sont immensément riches? Comment ça se fait? Parce que justement, ils ont transcendé ce problème-là, donc Dieu a un plaisir de leur donner de l'abondance. Ouais, c'est parce qu'ils le veulent bien. Ils veulent bien. Parce qu'ils n'ont pas, c'est comme Hillel HaZaken, avant d'être le président du tribunal, il était dans une misère noire. Vous connaissez l'histoire, qu'il s'est mis sur le toit, avec la neige, etc. Il n'avait même pas de quoi payer le Beit HaMidrash pour rentrer, quoi. Donc, au début de sa vie, il a vécu cette épreuve-là. Et après, quand il est devenu président, les portes sont ouvertes. C'est-à-dire que c'est vrai qu'au début de la Avodat Hashem, il y a tout se paye exactement comme ça doit être payé. Donc c'est très dur. Comme vous dites, c'est une épreuve au début. Mais ça ne doit pas être tout le temps une épreuve. Après, l'épreuve est transcendée. Après, vous avez passé l'épreuve. Quand vous avez passé l'épreuve, au contraire, si vous réussissez dans le service de Dieu, les finances doivent suivre avec. C'est une référence, quoi. Non, on parle de ceux qui sont riches en s'intéressant à ça. Il y a des gens qui sont riches parce qu'ils tirent leur vie du mauvais côté. Quand, de l'autre côté, du côté du mal, Dieu donne gratuitement sans vérifier, sans calculer. Quand, à qui donne ça? À des gens qui s'intéressent qu'à ça. Mais si vous êtes riche, pas parce que ça vous intéresse d'être riche, mais c'est parce que c'est naturel chez vous d'être riche. Pour que vous puissiez donner la zaka facilement, faire ce qu'on appelle kiddush Hashem, que les gens disent « Ah, c'est trop grand, au moins celui-là, il n'est pas crasseux comme tous ces gens que j'ai vus. Ah, il a une belle maison, il est bien. Ah, c'est beau les religieux qui sont riches. » Quand vous, ça ne vous intéresse pas, alors ça veut dire que vous jouez avec ça. Comme le rouginaire. Le rouginaire, il était d'une richesse extraordinaire, mais dans ses chaussures, il avait des clous. Donc à l'extérieur, il montrait qu'il était très riche, mais en réalité, dans son intériorité, ils s'en fichaient du monde matériel. Donc les gens très très riches du monde de la Kedusha, la richesse ne les intéresse pas en tant que telle. Elle est vraiment un moyen pour eux. Mais elle est une preuve. Le fait qu'ils peuvent se permettre de s'acheter des foulards chez je ne sais quoi, au boulevard des Capucines, c'est parce que leur service de Dieu va se faire dans la largesse. Donc, pour nous, ça doit être un appel, quoi. Ça doit être pour nous un appel que, puisqu'on s'approche de l'avenue de Mashiach, donc on est censé avoir réglé le problème d'Adam Arishon, qui a amené la misère dans le monde, puisque au temps d'Adam Arishon, c'était comme ça. Et quand il a fait la faute, alors il a été maudit de devoir suer, de devoir se fatiguer. Donc, puisqu'on approche du temps où on a purifié le monde, que le monde peut devenir un révélateur de du divin, donc ça doit être chez nous, dans notre vie individuelle, ça doit être comme ça aussi. On doit voir de plus en plus d'abondance. Et c'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Vous n'avez pas comparé le niveau de vie des gens d'aujourd'hui avec le niveau des gens après la guerre. Dans 50 ans, vous voyez qu'aujourd'hui, il y a une abondance extraordinaire chez tout le monde. Là, ce qu'on appelle, il y a toujours un type qui vient ici, il me dit, je lui dis, on lui donne la tzedaka, et il me dit, je veux m'acheter un MP3. Un MP3, ça là. Et ça coûte 500 shekels, je ne sais pas combien ça coûte. Alors je lui dis, c'est tout. Il me dit, oui, je suis un pauvre de luxe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes des pauvres de luxe. Quand on dit qu'on est dans la misère, c'est pas la misère des gens d'avant qui étaient obligés de mettre leur table en gage pour pouvoir se payer un poulet pour Pessah. Aujourd'hui, bon, j'aime. Très peu de gens sont des vrais pauvres. Il n'y a pas de vrais pauvres, heureusement. Nous sommes tous des riches. Donc, et plus le temps passe, et plus on doit être riche. Parce que, comment ça? Par là, le fait de graver la Torah en soi. Donc, il faut s'habituer à graver la Torah en soi pour que ça se démontre. Sinon, tant qu'il y a un décalage entre l'homme et la Torah, alors il y a un décalage aussi entre le bien-être matériel et lui. Il faut qu'il y ait un regroupement entre les deux. Une adéquation. Voilà. Donc je nous souhaite à tous d'être tous tous riches, en bonne santé. Et toujours heureux. Et merci à nos auditeurs de chassidut.org qui nous ont entendus ce soir. Thank you.